Bonjour à chacun d'entre vous et puis merci à ceux qui ont participé à ce culte. C'était un moment très riche, très bienfaisant, qui est dans la droite ligne de la fête de la première Pentecôte. Parce que s'il n'y avait pas eu cette première Pentecôte chrétienne, premièrement, nous ne serions pas là ce matin. Imaginons, comme Jésus l'avait dit à la Syro-Phénicienne, vous vous souvenez, cette dame qui venait d'en dehors du pays d'Israël, Syro, la Syrie, Phénicie, c'est l'ancien Liban, lui avait dit, mais je ne suis venu pour les brebis de la maison d'Israël et pas pour les étrangers. Alors c'était une façon de la provoquer et de voir sa foi, parce que Jésus a quand même satisfait à sa demande. Mais imaginons que Jésus ne soit venu que pour Israël et qu'il n'y ait pas eu cette évangélisation du monde qui a démarré le jour de la Pentecôte. Eh bien, nous ne serions pas là aujourd'hui, nous serions perdus dans nos péchés, loin de Dieu. Et puis, la deuxième chose qui est une conséquence directe de la Pentecôte, c'est que chacun d'entre nous, parmi les enfants de Dieu, parmi ceux qui appartiennent au Seigneur, peut apporter quelque chose aux autres de la part de Dieu. Et j'aimerais lire avec vous donc ce récit de la première Pentecôte chrétienne que l'on trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Actes, chapitre 2. Vous savez que le livre des Actes, c'est la suite de l'évangile de Luc, avec le même auteur, Actes chapitre 2. Et nous lirons les 18 premiers versets de ce chapitre 2. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ça c'est la Pentecôte juive, hein, la Pentecôte était une des trois grandes fêtes juives. Il y avait Pâques, il y avait Pentecôte, et il y avait aussi la fête des tentes. T-E-N-T-E-S, hein, pas la fête des tatas. Hein. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, c'est-à-dire les disciples, les apôtres de Jésus, hommes et femmes, il y avait aussi Marie, la maman de Jésus, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu, et qui se séparaient les unes des autres, leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle ?» Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes, et se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les onze, éleva la voix et s'exprima en ces termes, « Vous, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour, c'est-à-dire 9 heures du matin. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, toute personne. » Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là. Je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Eh bien, voilà exactement ce qui s'est passé tout à l'heure. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les hommes et les femmes, les frères et les sœurs. Vous savez que souvent, dans l'Écriture, il est question de frères. Mais quand il est question de frères, il est bien sûr entendu, sous-entendu, de frères et de sœurs. Il est question d'hommes. Mais bien entendu, il est sous-entendu d'hommes et de femmes. Ce sont les êtres humains. L'Écriture s'adresse aux hommes et aux femmes, pas seulement aux hommes. Or, ici, il est bien précisé qu'on pourra insister, vos fils et vos filles prophétiseront. Or, que veut dire prophétiser ? Parler de la part du Seigneur. Et c'est bien ce qui a été fait, ce qui a été dit tout à l'heure, de la part du Seigneur pour nous encourager, pour nous exhorter les uns les autres. Et puis vos jeunes gens, des jeunes, et puis des vieillards, n'importe quel âge, n'importe quelle condition sociale aussi, des serviteurs et des servantes, ceux qui n'avaient pas droit à la parole dans l'Église, ont droit à la parole. Et c'est cela la beauté de la réalité du peuple de Dieu. Réalité de ce que la Pentecôte a apporté. Alors, que s'est-il passé ce premier jour, ce jour de la première Pentecôte chrétienne? Pentecôte, donc, une des trois fêtes. En Israël, il y avait Pâques. Pâques, c'est la libération de l'esclavage égyptien. C'est le départ vers la terre promise, moment où Dieu prend en charge ce peuple dans le désert. La fête des tentes ou la fête des cabanes ensuite a rappelé au peuple d'Israël qu'ils étaient nomades dans le désert pendant 40 ans et que pendant ce temps, ce peuple a vécu sous des tentes. L'apôtre Pierre nous dit que nous sommes tous des voyageurs, des étrangers même, des voyageurs sur cette terre. Nous sommes de passage, mais notre destinée ou notre destination, c'est d'être avec le Seigneur pour toujours. Et puis la troisième fête, celle de la Pentecôte, c'est la fête des premières récoltes. Et déjà, même ici dans notre pays, nous voyons les fruits se former après les fleurs. Et déjà, peut-être récoltons-nous quelques fruits. Cette fête de la Pentecôte a lieu 7 semaines après Pâques, d'où son nom. 50, Pentecôte, ça veut dire 50, 50e. Pentecostos, ça veut dire 50e en grec, puisque le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et Pentekonta, ça veut dire 50 en grec. 50 jours, le 50e jour après Pâques. 7 fois 7, 49, c'est-à-dire à peu près 7, enfin, c'est-à-dire 7 semaines. Et cette fête est devenue ensuite la fête du don de la loi au mont Sinaï, au peuple de Dieu. Elle est devenue une fête chrétienne que nous avons sans doute tendance à négliger par rapport à Noël ou à Pâques. Mais c'est la fête de l'an du don du Saint-Esprit, de la venue du Saint-Esprit, comme l'avait annoncé le prophète Joël, sur toute chair, toute personne qui se tourne vers le Seigneur. Et avant de mourir, Jésus avait dit à ses disciples qu'il leur enverrait le Saint-Esprit comme un autre lui-même. Jean 14, 15, chapitre 14, verset 15. « Je vous enverrai le Consolateur, un autre Consolateur qui sera éternellement avec vous. » Alors ce terme de Consolateur peut être traduit aussi par un autre mot, comme le mot avocat, c'est-à-dire quelqu'un qui se tient à côté de nous, pour nous défendre, pour nous épauler, pour marcher tout simplement avec nous, éternellement, dit Jésus. Comme Jésus était présent en chair et en os, le Saint-Esprit, il dira d'ailleurs un peu plus loin, « Je serai toujours avec vous » à la fin de l'évangile de Matthieu. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il est par le Saint-Esprit, c'est-à-dire il est invisiblement à nos yeux de chair, mais tellement présent dans notre cœur, dans notre être. Alors ils étaient réunis en prière, et le jour de la Pentecôte, c'est comme un gros orage qui s'est abattu sur leur maison. D'un seul coup, soudainement, d'un seul coup, un peu comme lorsque Jésus reviendra, d'un seul coup, en un clin d'œil, un vent violent remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors pourquoi ce vent? C'est un symbole, il y a beaucoup de symbolisme dans la Bible. Le vent, c'est l'esprit, le symbole de l'esprit, parce que à la fois en hébreu, l'Ancien Testament est écrit en hébreu, en grec, le Nouveau Testament est écrit en grec, le mot esprit est synonyme de souffle et de vent. Et quand Jésus dit « le vent souffle où il veut », on peut traduire « l'esprit souffle où il veut ». Jean 3, 8 à Nicodème, « le vent souffle où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » Nous ne savons pas pourquoi le Seigneur agit de la façon dont il agit, mais il agit, et il agit par le Saint-Esprit. Et personne ne peut dire « je suis chrétien » s'il n'a l'Esprit de Dieu en lui. Et il suffit de dire « Seigneur, entre dans ma vie » pour que le Saint-Esprit vienne dans notre vie. On peut être chrétien sans être né de nouveau, ou c'est pareil, être né d'en haut. Ça se trouve dans les paroles de Jésus à Nicodème, Jean chapitre 3. Et une naissance est toujours une surprise, hein ? Peut-être plus autrefois qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on sait si c'est un garçon ou une fille, si c'est des jumeaux, etc. Autrefois, on ne le savait pas comme on le sait aujourd'hui. C'est une surprise. D'ailleurs, lorsque une femme est enceinte, c'est une surprise. J'espère une agréable surprise, mais peut-être pas toujours, bien sûr. Mais la nouvelle naissance, c'est une surprise aussi. Dieu nous fait la grâce de naître d'en haut, de naître de nouveau. Et puis il y a des langues de feu. C'est traduit mieux, je crois, dans la Bible du Semeur, des flammèches. Des flammèches qui se posent sur chaque personne. Difficile un peu à imaginer, mais ce sont un peu comme des flammes, des flammèches qui se posent sur ces personnes. Et là aussi, il y a un jeu de mots sur le mot langue, des langues de feu. Comme en français, la langue, c'est l'organe que nous avons dans notre bouche, qui sert à goûter, qui sert à parler, qu'on tire quand on n'est pas gentil, mais qu'on tire aussi quand on fait de gros efforts, on tire la langue. Mais ce mot veut dire aussi la langue dans laquelle on parle, la langue française. Pour nous qui parlons français. Et voilà que ces Galiléens, on pourrait traduire ces paysans qui ne sont pas de la ville de Jérusalem, qui viennent de la campagne, ces Galiléens qui étaient un peu méprisés par les gens de Jérusalem, se mettent à parler dans une langue qu'ils ne connaissent pas et que ceux qui sont autour d'eux connaissent leur langue maternelle. Imaginons un petit peu ce qui s'est passé ce jour-là, un petit degré seulement. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro que Pierre-Yves, tu peux donner d'abord à Natacha. Merci.
Seigneur Jésus, c'est avec beaucoup d'émotion dans mon cœur. Je voudrais te remercier. Te remercier aujourd'hui. Tu nous as permis, Robert et moi, de venir ici. Avec beaucoup d'efforts, mais tu étais à nos côtés. Et je te rends grâce, Seigneur. Que toute ma vie, je t'ai connu. Je t'ai connu par mes parents. J'ai toujours entendu le nom de Jésus. J'ai toujours entendu les noms d'aimer et d'amour. Et toute ma vie, Seigneur, tu m'as conduit. Tu étais toujours à mes côtés dans les moments très difficiles. Et je t'en grâce, Seigneur, pour cet amour. Et ce matin, Marc m'a donné un passage en russe. Ça m'a ému beaucoup. И так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. En français, Dieu tellement aimait le monde qu'il a donné son Fils unique. Sauver. Et nous te rendons grâce, Seigneur. Et je voudrais en même temps prier pour notre sœur Laure, que tout à l'heure j'étais trop émue. J'ai entendu son angoisse. Ma chère Laure, aie confiance. Seigneur est avec toi. Tout se passe bien. Pour toi et ton enfant. Dieu est avec nous. Et on ne se rend pas compte à quel point il nous aime. À quel point il nous conduit. Aie l'espérance en lui. Il te donnera la paix et tout se passe bien. Merci, notre Père Céleste, pour cette église que tu as, que tu nous as conduit, Robert et moi. Et j'ai trouvé mes racines. Et longtemps, Seigneur, nous avons pas mis dans une église. Et aujourd'hui, je te demande pardon, Seigneur. C'était des circonstances qui nous ont empêchés. Je te rends grâce, Seigneur, pour la foi que tu nous donnes, Seigneur. Dans notre faiblesse, tu es toujours là. Tu conduis chacun de nous par le chemin que tu nous as tracé. Aide-nous, notre Père Céleste. Nous avons tant besoin de ta présence, de tes conseils, et de ton amour que nous te remercions, Seigneur. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen.
Amen. Amen. Merci, Natacha. Si on peut passer le micro à Martine.
For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life.
Merci. C'était quelle langue? Et Natacha, c'était quelle langue quand elle... C'était du russe, voilà. Si tu veux donner le micro à René.
Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.
Dankeschön. C'est quelle langue? L'allemand. Et maintenant?
C'est l'espagnol. Alors attention, s'il y a un espagnol là.
Non, mais de toute façon, on est censé ne pas comprendre, hein, sauf si c'est notre langue maternelle.
Hein. Porque de tal manera amó Dios al mundo.
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo a él que en cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Español.
Merci, l'espagnol. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto wień wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Et maintenant, autos gar ega pesen o theos ton kosmon, oste ton ion, ton monogene edoken, ina pas o pisteon eis auton me apoletai al eke zoen aio nion. Voilà, le grec du Nouveau Testament. Ça ira pour ce matin, mais voilà, c'est notre privilège de pouvoir chanter, dire les louanges de Dieu avec des gens du monde entier, de toute langue. Et un jour, nous nous retrouverons dans la présence du Seigneur au ciel, avec tout le peuple de Dieu, et l'Écriture précise, Apocalypse chapitre 7, verset 9, « Après cela, je regardais, et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. » Le texte précise bien « de toute langue ». Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Et il criait d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des quatre êtres vivants. Ils tombèrent la face contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Faites de toutes les nations des disciples. L'envoi a été donné le jour de la Pentecôte. Il continue encore aujourd'hui. Notre tâche, notre appel à chacun d'entre nous, c'est d'annoncer les merveilles de Dieu dans toutes les langues du monde entier. Et puis, vous l'avez peut-être remarqué aussi, l'accent est mis sur les individus. C'est sur chacun d'eux que ces flammèches sont tombées. Et Jésus dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau, chaque individu. Et à la fin du discours de Pierre, Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est à la fois un message qui concerne toutes les nations, mais aussi, et cela va de pair, pour chaque individu, pour le pardon des péchés, de chaque individu. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, merci pour cette première Pentecôte. Merci de ce que, à travers les siècles, ta parole nous a atteints jusqu'à aujourd'hui et qu'elle continue encore à faire son chemin jusqu'au jour où tu viendras pour établir ton royaume. Merci de nous compter parmi tes enfants. Merci pour la liberté que tu nous donnes en Jésus-Christ. Merci parce que nous pouvons parler en ton nom, parler de toi, te faire connaître, nous encourager les uns les autres. Bénis encore chacun d'entre nous et que nous sachions tous nous mettre au bénéfice de ta croix, de ton esprit qui veut habiter toujours plus en chacun de nous. Bénis cette journée, bénis cette semaine que nous te remettons. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Et nous chantons pour terminer.